Je trouve pas que vous ayez un regard de touriste. Je trouve que vous m'avez posé des questions assez fondamentales. Et je vais avoir du mal à répondre à tout ça un peu de temps. Je vais essayer de me centrer, voilà, peut-être. Je vais peut-être partir du concept d'assertion. Parce que par rapport à ma conception d'enseignement-apprentissage, le concept d'assertion me paraît assez central. Et à partir de là, je vais peut-être pouvoir un peu dérouler plusieurs des questions que vous m'avez posées. C'est l'idée que, quand vous avez parlé de la dispersion des formes, enfin que je disais que tout est possible au début, ça se disperse, etc. Je pense que ce qui est essentiel dans la démarche que je propose, c'est que les gens assertent leurs propos, même quand presque ils ne savent pas qu'ils assertent. Je vais m'expliquer. Le fait que, donnons un exemple, par exemple dans la démarche multilingue, je raconte que quelqu'un, on demande que chaque personne pose un signe, c'est-à-dire qu'on demande de toute façon, de façon systématique dans toute démarche, qu'il y ait un travail individuel et une production individuelle à la base de tout travail de groupe, et c'est ça ce qui lance la dynamique de la classe. Donc le travail individuel, c'est d'abord exiger que chacun pose quelque chose. Et alors, même si ce qu'il pose représente pour lui une provocation, du n'importe quoi, n'importe. Hein. Il a posé quelque chose, il a écrit, on a donné la consigne que c'était pour mettre dans le pot commun, on affiche, par exemple, je donne un exemple. Donc on affiche le texte que la personne a posé, même si la personne a fait ça de façon un peu en jouant et en disant « je veux pas rentrer dans le jeu », il est rentré dans le jeu. Et à partir du moment où il est rentré dans le jeu, il est pris dans cette dynamique organisée de la classe, dont vous avez évoqué l'idée que c'est une dynamique complexe, un système complexe, dynamique. Hein. Le fait que ce soit organisé, il a posé son signe, il va se mettre dans un petit groupe, et dans le petit groupe, on va ensemble décider de ce qu'on en fait. Enfin, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais cette idée qu'on va produire ensemble un signe ensuite, qui lui-même va circuler, va être posé au niveau du collectif. On a posé un signe, on ne sait pas ce qu'il vaut, on peut avoir décidé qu'il valait rien. Mais dans la dynamique qu'on instaure, ce signe prend sens. C'est-à-dire que ce signe prend une place dans la langue. Et quand je parle de communauté linguistique, je veux dire que les signes qui sont posés ici à Perpignan, par un groupe quel qu'il soit, dans la langue, il fait partie de la langue finalement au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il fait partie de la grande communauté linguistique qui parle cette langue-là au niveau du monde. Mais le fait qu'il fait partie de cette communauté-là, à partir de ce moment-là, il a une responsabilité par rapport à ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on ne sollicite pas l'intention a priori. C'est là que les pratiques de création sont extrêmement importantes. Et François aurait été content de me dire ça, putain. Il n'y a pas d'intention au départ du signe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement d'intention. Il y a un jeu sur des formes, il y a un jeu avec des formes, et puis il y a un jeu avec la situation sociale. C'est-à-dire qu'il y a un jeu qui est mis en... Il y a quelque chose qui est mis en jeu de l'ordre de la relation avec le prof, avec les copains, avec l'institution. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce sont des systèmes complexes. Hein, c'est-à-dire que ce sont des emboîtements de systèmes. Il y a le système de la langue qui est au niveau du... Et puis il y a des sous-commissions, quoi. Il y a des sous-groupes linguistiques... dans lequel la personne est entraînée. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'idée qu'on met le doigt dans l'engrenage et qu'ensuite on est embarqué dans un apprentissage, c'est ça qui produit le plaisir dont on a parlé et la mobilisation du sujet. Mais c'est pas une mobilisation qui tend à faire produire de l'émotion seulement. C'est pas l'émotion seulement qui est convoquée. L'émotion est présente et autorisée parce qu'elle est nécessaire et qu'elle fait partie de la priméité, hein, de la secondéité. Enfin, le fait d'inscrire sa personne dans une situation, c'est plein d'émotions. Donc il faut accepter l'émotion, il faut la solliciter même de ce point de vue-là. Mais c'est pas l'émotion qu'on recherche. C'est-à-dire que le plaisir, j'aimerais vous faire remarquer la chose que c'est le plaisir, c'est celui de la découverte des lois. C'est-à-dire j'insiste bien dans la démarche sur l'accent, sur l'idée de légitime. C'est ça que ça m'a permis de montrer peur, c'est en fait d'analyser. Il m'a permis de l'analyser parce que c'est quelque chose que je voyais, que je percevais, que j'ai observé et que j'ai vécu personnellement aussi. Hein. C'est... Donc interroger quel est le signe auquel on s'intéresse dans ce système-là. On s'intéresse à des signes de loi, c'est-à-dire que la norme, la dimension socio-historique de la langue, elle est toujours présente. Elle est toujours présente comme représentation, comme but éventuellement, qui se construit, qui se reconstruit, qui se modifie. Et comme je pense à une phrase de Jean Houry qui parle de collectif comme fiction transcendantale structurante. J'ai trouvé ça dans une thèse de Pierre Lafitte qui décrivait la pédagogie institutionnelle. C'est très intéressant comme idée. C'est l'idée que le collectif, donc C'est l'idée qu'on ne se construit et on apprend qu'en s'identifiant à un collectif. C'est-à-dire on s'identifie à une culture qui est celle. Et alors le développement de la personne, il est d'autant plus dynamique que la personne a l'occasion de s'identifier à des collectifs différents, à des niveaux différents, dans des lieux différents, dans des cultures différentes. Et c'est ça qui est un peu la base de ma conception. Et ça rejoint la fleur de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on parle, on se parle et on se dit dans des lieux différents, avec des gens différents, en projetant des identifications différentes à des cultures. Vous avez dit on sollicite la nature, non, je ne crois pas. Enfin, ou alors la nature au sens où la nature humaine est culturelle. Mais c'est ce qu'on évoque, ce qu'on convoque, ce n'est pas seulement les ressources émotionnelles du sujet, ce sont les signes de son langage. C'est-à-dire, ce sont des signes, c'est de la culture. C'est-à-dire, c'est pas le. Je ne sais plus, vous avez parlé du bon sauvage, c'est pas du tout le bon sauvage qu'on va chercher. C'est quelqu'un qui est au contraire porteur d'idéologie, porteur d'habitude, porteur de croyances, et c'est tout ça qu'il va mettre en jeu par un petit bout. Alors lui, il est seul, moi je ne vais pas me... Là où je ne suis pas psychologue, si vous voulez, ou là où je me dégage, enfin, la sémiotique, disons, me permet d'avoir un regard sur la pédagogie qui n'est pas un regard de psychologue, au sens où je ne m'intéresse pas forcément, personnellement, à la vie privée des personnes qui sont là, etc. Ça, ce n'est pas intéressant pour moi, c'est intéressant pour eux, c'est leur problème à eux, c'est-à-dire ils dialoguent avec eux-mêmes dans la démarche sur leur vie privée, leur culture. Mais moi, je n'en occupe pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement de comprendre comment la situation que je crée leur permet de jouer tout ça et de s'inscrire dans un dialogue avec eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les dialogues qu'on fait intervenir, toutes les interactions qu'on fait intervenir dans la démarche sont des dialogues du sujet avec lui-même. Et c'est là aussi que pour l'assertion, c'est intéressant parce que c'est à la fois la secondéité au sens où on inscrit un signe dans un espace, et c'est la tiercéité tout de suite parce que on est dans un espace collectif, justement. C'est le fait d'inscrire dans un espace, une feuille d'assertion, c'est un concept persien aussi très intéressant et assez simple. L'idée que c'est l'espace social de la langue où on inscrit quelque chose, et donc on est responsable, et donc on s'interroge, et c'est là qu'on peut commencer à s'interroger de manière critique sur ce qu'on a fait, et c'est toujours ce que font les gens. C'est-à-dire, quand ils parlent une langue étrangère qu'ils ne connaissent pas, par exemple, ça fait. On fait dans la démarche accent, on parle une langue qu'on ne connaît pas du tout. Il faut faire reconnaître aux autres la langue qu'on parle, sans les mots de la langue. Donc on fait jaillir une représentation de l'aspect qu'elle a pour nous, et puis comment on fait le corps, comment il se. Bon, ben, là, on parle, ou même dans Le Petit Prince, on produit un texte. À partir de textes écrits, on a réussi à comprendre des fragments, et on met ces fragments ensemble, et on crée une situation où on parle. Donc on invente la prononciation. Mais on invente la prononciation collectivement, ça veut dire que quand même il y a quelque chose qu'on met en jeu, c'est nos représentations, tout un système ici, et il y a des choses qui sont certainement vraies là-dedans. Je ne dis pas qu'il y a de la dispersion. Ce que je dis, c'est que ce qui est important, c'est que ce qu'on a produit là, on en est responsable après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit ça, cette représentation orale de la langue, la prochaine fois qu'on va en entendre, on va l'écouter. Et c'est ça, dans la secondéité, c'est ça qui est très important, c'est de comprendre qu'on ne fait exister l'objet qu'en existant soi-même. Et c'est ça que je recherche, c'est pas la psychologie, c'est pas seulement l'émotion, tout ça, c'est la culture du sujet, la porte là, il est là et il existe, et en existant, il fait exister son objet. Sans lequel, on peut toujours essayer d'intéresser les élèves aux objets qu'on leur propose. Enfin, on peut y arriver par d'autres moyens, mais je pense que dans d'autres pratiques, alors quand même, je voudrais vous répondre rapidement sur la question de la démarche avec un grand D. La démarche avec un grand D, c'est pas la bonne démarche, c'est la démarche du GFEN, c'est-à-dire c'est la démarche d'autosocio-construction. Certains l'appellent la DASC. Moi, je dis la démarche parce qu'on en parle, nous, entre nous, beaucoup. Et c'est un objet qui fait un peu ésotérique. Moi, j'aimerais bien. J'ai voulu la sortir un peu de son isolement dans un petit milieu de gens qui la connaissent, qui la pratiquent et tout ça. J'ai voulu en analyser la logique pour montrer qu'elle se rattache à d'autres types de travail, à d'autres types de situations qui sont inventées ailleurs, dans d'autres contextes. Et qu'en la décontextualisant comme ça par rapport au GFEN, on peut lui donner une portée quand même qu'elle mérite. Non pas en tant qu'icône, non pas en tant qu'objet à transposer. Puisque je l'ai fait moi-même, en fait, j'ai refusé ce rapport-là à la démarche de transposer quelque chose qui était une forme canonique qu'on applique à des objets tout faits. Je me suis servi comme démarche pour moi, en fait, aux démarches vivantes, symbole. C'est-à-dire que de l'icône qui est, voilà, la démarche, c'est une situation problème avec... on met des travail individuel, travail petit groupe, travail grand groupe. Alors ça, c'est la espèce de forme triadique, triadique de la démarche, qui fait que elle ressemble beaucoup à la sémiose persienne. Hein. Mais bon, il faut la prendre non pas comme juste une image à reproduire, mais comme un symbole, c'est-à-dire quelque chose qui de vivant, quelque chose qui peut prendre des tas d'autres formes. Mais je l'ai appelé avec le D majuscule en disant c'est de ça que je parle et je veux, je veux critiquer cette représentation que nous avons, nous, au GFN, de la démarche. Il ne faut pas que ça reste l'objet dans lequel il faut que tout le monde passe pour se comprendre. Enfin, on n'a pas besoin, pour la comprendre, d'être à l'intérieur du petit groupe. Ça, c'est les bonnes conditions de l'entropie et de la dégénérescence. Et bon, c'est pour ça aussi que la pédagogie que j'ai décrit là-dedans, ce n'est pas une pédagogie que j'appelle de mes voeux. Parce que ce n'est pas un modèle à appliquer, ce n'est pas un modèle que je prône, que je voudrais que les gens appliquent. C'est plutôt faire un peu ce que j'ai eu l'occasion de faire moi-même, c'est-à-dire d'utiliser la démarche comme analyseur de pratiques existantes. C'est-à-dire, et grâce à la sémiotique qui, justement, me permet d'analyser les différentes classes de signes qui sont à l'œuvre dans la démarche, voir comment ces différentes classes de signes peuvent fonctionner ailleurs, dans des choses qui sont pas de la forme canonique de la démarche. En tout cas, si c'est vraiment une vérité, la démarche, elle se réinvente ailleurs. En général, des choses importantes s'inventent dans plusieurs lieux de la planète en même temps. Ça s'est fait souvent pour les grandes découvertes. Si ça en est une, ça devrait aussi arriver ailleurs. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions.
Oui, je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors nous allons voir si nous avons affaire à un touriste ou un pédiatre. La personne du professeur Michel Cosy, à qui j'essaie de la parole.
Vous m'excuserez parce que j'ai un problème sérieux actuellement. Donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout et en essayant de parler un peu plus rare pour que ça puisse se passer. J'ai beaucoup hésité avant d'accepter de participer à ce jury. Par incompétence et plus d'un être l'un des rapporteurs, incompétence en sciences du langage, en didactique des langues. Alors je dis le mot didactique et pas le mot pédagogie, j'explique un petit peu pourquoi, mais j'ai accepté. J'ai accepté pourquoi, parce que je suis un didacticien de la philosophie. Vous remarquerez que je dis didacticien et pas pédagogue. Et en même temps, parce que Joël Cordès appartient au GFN, au mouvement d'éducation nouvelle avec lequel je me sens une affinité profonde. Je n'appartiens pas au GFN, mais j'ai travaillé 10 ans avec le secteur philosophie du GFN. J'apprécie beaucoup les gens qui le composent. Mais par contre, je suis depuis 35 ans militant du CRAP et des cahiers pédagogiques. Et c'est cette espèce de paradoxe d'être à la fois militant et chercheur qui m'a particulièrement intéressé et chatouillé, je dirais. Et je dirais qu'il pose le rapport à la fois entre l'innovation et la recherche, et qu'il pose aussi le rapport entre les mouvements pédagogiques et la recherche, alors je précise, universitaire. Voilà, donc je suis là. Voilà. Votre thèse a pour objectif de fonder une pédagogie de l'apprentissage des langues étrangères. Alors ça m'intéressait parce que c'est toujours intéressant quand on est spécialiste des langues de la discipline d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Alors, vous appuyez pour une démarche, on vient d'en parler. Alors, la démarche, j'ai mieux compris ce que c'est, le D majuscule. C'est un D de majesté. La question était intéressante, comme on dit, nous autres, mais là, c'est le dé de majesté d'un groupe, quoi, c'est ce qu'on promet. Quoi. C'est-à-dire, nous autres, donc GFN, notre démarche. Ça m'a beaucoup intéressé, d'ailleurs, les démarches que j'ai vécues au GFN, précisément, donc là-dessus, m'ont toujours dépaysé, m'ont toujours, c'est la pensée abductive dont on parle, réalimenté dans ma propre pratique, je dirais, dans ma triple expérience de praticien, de formateur et de chercheur. Il me semble qu'il y a dans ces trois types d'expériences quelque chose qui se féconde mutuellement, mais en même temps qui se situe à des niveaux, je dirais, de pratique sociale, et de statut épistémologique aussi différent. C'est-à-dire, à la fois une grande complémentarité, en même temps, il y a des spécificités articulées. Et là, ce que donc vous cherchez, c'est évaluer la pertinence, finalement, de cette démarche par une analyse de type sémiotique empruntée au pragmaticisme de Peirce. Alors, Peirce que j'ignore totalement, que j'ai entrevu, mais j'ai encore rien compris. C'est un auteur particulièrement ardu. Donc, pour le moment, je n'ai pas besoin pour mes propres travaux, mais bon, c'est possible. En tout cas, je l'ai rencontré. Bon, c'est pas encore l'illumination, hein. À partir de là, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la façon dont on approfondit, là c'est le philosophe qui parle, la relation de l'homme en tant que sujet au langage. Alors, vous faites allusion à Gège avec l'homme de parole, je pensais aussi au par-lettre, hein, donc de Lacan. Et ce, par le biais de, ça a été dit, par une dimension anthropologique. Ça m'a assez intéressé aussi, cette dimension anthropologique de l'apprentissage des langues. Alors celui-ci s'énonce comme parler de la langue de l'autre, comme rapport structurant de sujet à l'altérité, et sous la forme d'un paradigme de l'étrangeté. Il y a là une dimension anthropologique, philosophique et philosophique qui me semble très intéressante par l'entrée dans ce que c'est qu'un homme qui parle. Qui parle dans et par une langue, en prononçant des discours, ils sont scènes toujours d'un sujet, quelqu'un, qui n'est pas quiconque. Ça aussi, c'est intéressant. Et alors, ce qui est absolument paradoxal, c'est que ce sujet s'y révélerait non seulement, alors c'est là où ben, vraiment ça fait choc aux idées, capable d'apprendre et à tout âge, ça c'est important, parce qu'on dit toujours, on apprend d'autant plus les langues étrangères, on apprend beaucoup plus tôt. Une langue étrangère, donc, et en même temps est un polyglotte potentiel. Tout homme est un polyglotte potentiel. Ça, il faudra me l'expliquer, moi qui parle très mal l'anglais, mais enfin bon, parce que ça me ferait du bien narcissiquement. Bon, alors, je passe le temps dont je dispose sur tout ce que je voulais dire sur les différentes parties. Mais voilà, je vais centrer plutôt sur trois remarques, parce que ce qui est intéressant, c'est. D'avoir votre point de vue là-dessus. Donc la thèse est philosophiquement fondée sur le pragmatisme, et plus particulièrement le pragmaticisme de Peirce. Alors je me suis demandé où était passé William James. C'est bon, parce que en matière de pragmatisme anglo-saxon, c'est quand même le pilier. Et pour ma part, c'est un courant qui est très philosophiquement respectable, comme tous les courants philosophiques, mais qui, évidemment, comme toute doctrine philosophique, peut être disputée et contestée. Alors, c'est un problème de fond, parce que c'est le présupposé, je dirais, un peu philosophique, hein, de votre thèse, qu'on peut juger de la vérité d'un concept ou d'une théorie, aux effets qu'il produit dans l'action. Ça, c'est un présupposé un petit peu donc, de base. C'est-à-dire que, or il y a une grande tradition philosophique qui ne fonctionne pas du tout sur cette affirmation, ce présupposé, qui pense que la vérité est plutôt de l'ordre du jugement et de la pensée que des résultats, disons, dans l'action. On peut donc se demander si l'expérience de la réussite est le critère de validité d'une démarche. C'est-à-dire, finalement, si c'est vrai parce que ça marche. Hein. Alors vous dites, ça marche. C'est intéressant de comprendre et d'expliquer donc pourquoi ça marche. Mais est-ce que, parce que ça marche, on peut en tirer des conséquences sur la vérité de la formalisation, de la théorisation qu'on peut faire sur ce type de fonctionnement? C'est l'objection de fond. Au fond, ce que vous dites, c'est que ce sont les réussites observées au cours de la démarche qui justifient son bien fondé pédagogique. En tout cas, c'est comme ça, moi, un peu que je l'entends. Il pose la question fondamentale de savoir si on peut réduire le vrai à l'efficace et à ce qui réussit. Parce que l'école est très efficace pour faire échouer. Le capitalisme est très efficace pour exploiter. Hein, est-ce que ça valide forcément leur démarche? Alors, la réussite ne serait-elle un argument que lorsqu'elle nous arrange? Et que fait-on quand elle nous dérange? question. Alors, personnellement, je pense que l'efficacité n'est pas une valeur. C'est tout un débat. Hein. Et c'est ce que veut nous faire croire la modernité. C'est plutôt un moyen stratégique, une tactique, pour arriver à une fin jugée bonne. Par exemple, l'émancipation. Elle n'a donc de valeur qu'ordonnée aux objectifs poursuivis. Donc, alors, c'est ça, là, c'est un peu thèse contre thèse. Quoi. Bon, voilà. La réussite, enfin, voilà, moi j'affirmerai plutôt ça. La réussite ne prouve rien en matière de vérité de la pensée. Voilà. Sinon que les moyens et la technique étaient adéquats dans l'action. Alors, comprendre par contre pourquoi ça réussit peut produire du savoir sur l'action. Du savoir sur l'action. Et c'est précisément là où il va y avoir un problème. Est-ce que le savoir de la pratique est un savoir sur la pratique? Ça, c'est... Alors, j'y reviens. Alors, par contre, ce qui est très intéressant aussi, c'est de comprendre pourquoi ça échoue, pas seulement pourquoi ça réussit. Et moi, j'aimerais alors une analyse plus approfondie des difficultés rencontrées dans la démarche. Parce que dans la démarche, il y a des choses qui réussissent, mais il y a aussi beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, vous dites que par rapport à ceux qui appliquent la démarche, bon, vous auriez des fois des éléments, donc critiques à apporter de la façon dont elle est. Alors, elle peut être appliquée très mécaniquement aussi, donc cette démarche-là, donc elle peut être techniciste, ça aussi vous le dites. Mais moi, ce qui me semble, c'est que la démarche, elle fonctionne en bonne partie à cause des compétences de l'animateur. Enfin, c'est une hypothèse un petit peu que je ferai. Et ça, par contre, il y a peu de choses, disons, dans la thèse, sur qu'est-ce qui fait que dans ceux qui marchent, et il y a des choses qui sont liées à la compétence de l'animateur, donc ça veut dire que si cette compétence n'était pas, peut-être que la démarche, disons, marcherait beaucoup moins. Et surtout, que cette compétence, bon, peut être mise en question, peut rencontrer des difficultés à ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'il en est? D'autant plus que vous dites que ce qui est fondamental, c'est le temps de l'analyse. C'est-à-dire pas seulement de faire, mais au niveau après, ensuite, dans un deuxième temps, au niveau métacognitif, de verbaliser sur ce qu'on a fait, pour le conscientiser, peut-être pour le formaliser. Alors, pour le théoriser, alors là, c'est le grand problème, hein, puisque c'est le dessus, dans votre thèse, vous essayez de théoriser, précisément. Donc voilà ma première remarque, mais qui est une objection. Qui est une objection, c'est intéressant. On est là, au niveau de la recherche, pour confronter comme des thèses. Est-ce que vous pensez vraiment que l'efficacité est une valeur? Premier point. Deuxièmement, est-ce qu'on peut juger de la vérité, c'est la même question, donc, par rapport à l'efficacité dans l'action. Est-ce que la démarche, finalement, ne repose pas sur la compétence de l'animateur, et notamment sur sa capacité de faire analyser par les individus et le groupe la démarche telle qu'elle a été vécue? Voilà, ça c'est mon premier petit paquet. Deuxième paquet, c'est massif, là, j'en vois, il faut aller à la racine, être radical, ça aller à la racine. C'est sur la distinction entre les champs de l'épistémologie et du politique. Vous êtes une militante pédagogique, comme moi, et c'est bien ce qui me pose un problème en tant que chercheur. C'est pour ça que ce problème-là que je ressens, je vous le renvoie. Notre thèse est un combat, page 17. Elle revendique pour son travail un positionnement actif, page 6. Et vous assumez votre appartenance à un courant de l'éducation nouvelle, le GFN, etc. Donc c'est une posture pédagogique engagée dans une thèse universitaire. Alors je dirais que c'est à la fois éthiquement courageux, politiquement significatif et épistémologiquement risqué. Je vous l'ai lu, j'avais choisi bien mes termes. Éthiquement courageux, éthiquement significatif et épistémologiquement risqué. Bon. D'une part, vous faites des critiques qui sont extrêmement vives. Elles ont été, on en a parlé tout à l'heure, convoquer la linguistique dans la didactisation des langues sans dimension anthropologique, pas quelque chose par exemple critiqué, faire l'impasse sur dimension anthropologique, évacuer le rapport du sujet à l'apprentissage, voilà aussi quelque chose que vous reprochez donc, à la didactique notamment, hein, d'être sans tenir un paradigme communicationnel, ça aussi vous critiquez beaucoup, je trouve ça intéressant, en privilégiant l'oral au détriment de l'écrit. Vous dénoncez aussi le mythe de l'utilité de la transparence des langues. qu'il réduira ce paradigme communicationnel. Vous critiquez aussi une approche qui serait trop rationaliste quand il s'agit de mettre en jeu le corps, l'affect, l'imaginaire. Vous critiquez aussi la surestimation de l'efficacité des pédagogies de l'immersion, qui sont souvent un petit peu la vulgate en matière d'enseignement des langues. Et puis, ça aussi, ça va bien intéresser, vous critiquez ceux qui pensent que l'apprentissage d'une langue étrangère ne commence qu'avec celui de son enseignement. Qu'il y a toujours quelque chose qui est finalement intérieur à l'enseignement de la langue, mais qui est déjà là et sur lequel, précisément, voilà, autant d'opinions donc, que vous bousculez. Par contre, vous soutenez un certain point de vue, moi, je suis en sciences de l'éducation, qui ne vont pas de soi pour les sciences de l'éducation. Alors, j'en relève quelques-uns. Par exemple, vous dites, un vrai praticien-chercheur est un vrai chercheur. Alors, est-ce que le mot chercheur a le même sens, disons, dans les deux expressions? Ou bien nous sommes tous chercheurs? Alors, pour moi, et j'ai beaucoup réfléchi, parce que ça m'impliquait moi-même, il me semble qu'il y a toujours une dérive toujours possible dans le militantisme. Alors, j'aime bien assertatif, alors c'est intéressant que vous preniez le mot, mais surtout manichéen. C'est l'ampleur du biais. C'est-à-dire, avoir la réponse avant d'avoir formulé une problématique, justifier une thèse au lieu de l'établir, argumenter d'autant plus vigoureusement ce que l'on dénonce, qu'il n'y a guère de doute vis-à-vis de ses convictions intimes, parce que l'argumentation est moins, en termes, disons, d'administration de la preuve, c'est-à-dire en termes de combat, plus que de débat, me semble-t-il, privilégier la certitude nécessaire à l'urgence bien fondée de l'action plutôt que la suspension du jugement dans le questionnement sur la complexité. Voilà, moi, personnellement, je ne dis pas ce que vous avez fait, je dis que ce sont les dérives possibles de tout militant qui va essayer d'avoir une démarche, disons, de recherche. Et je le constate aussi. Donc là où on pourrait s'attendre à une distanciation en sciences de l'éducation, et là on ne parlait pas du tout des sciences de l'éducation, à ma connaissance, l'expression, c'est bien qu'on ne peut pas dire une idée. Et pourtant, on ne peut pas se permettre de sauter des paragraphes dans notre thèse. C'est très emmerdant pour un membre du jury, parce qu'il est tenu par le texte jusqu'au bout, il aimerait bien de temps en temps pouvoir un peu sauter pour aller plus vite, parce que heureusement, il y avait les vacances de février. Et surtout, en sciences d'éducation, on fait la distinction classique entre être en recherche pour un praticien ou un formateur et faire de la recherche. Alors, au sens, entre guillemets, scientifique, donc au sens un peu de la recherche universitaire. Alors que vous soutenez qu'il n'y a pas de coupure entre pratique et recherche. Bon, tout ça, ce sont des thèses que n'importe quel membre d'un jury de sciences de l'éducation reprendrait, parce que ça lui poserait donc question. Donc là où on pourrait s'attendre à l'élaboration d'une problématique à une méthodologie cohérente avec des hypothèses qu'on cherche moins à démontrer qu'à éprouver au sens de mettre à l'épreuve, trianguler à base d'observations, par exemple d'entretiens, de questionnaires, etc. Vous parlez d'une démarche, c'est intéressant parce que ça nous déplace, avec la majuscule, alors moi aussi, qui hypostasie une méthode, qui devient la méthode, mais vous êtes expliqué sur ce point et la réponse m'a bien satisfait. En fait, votre démarche, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est une pratique innovante. C'est une pratique innovante de classe, c'est une pratique innovante de stage. Et c'est ça, c'est cette démarche que vous posez comme méthode d'enquête. Et là où on s'attend méthodologiquement à l'administration de la preuve, vous affirmez, alors c'est ça qui est intéressant, et en même temps provoquant, une démarche est à elle-même sa propre preuve. Une démarche est à elle-même sa propre preuve. Alors qu'on peut se demander s'il ne faut pas faire la preuve que la démarche est bien une démarche de recherche. Je renverserai l'administration donc de la preuve. Vous parlez même de preuve praxique, preuve praxique, de preuve par l'action, et vous définissez le savoir comme une conscientisation de l'expérience vécue. Est-ce qu'on peut confondre conscientisation d'une expérience avec théorisation d'une démarche? On sait d'ailleurs à quel point la seule analyse de sa pratique produit des biais dans une recherche par manque de recul. Alors encore un peu plus loin, là où on s'attendrait classiquement, s'agissant de sciences du langage, en l'occurrence d'apprentissage des langues étrangères, à une recherche en didactique, alors disons le mot, vous rejetez donc celui-ci, du moins jusqu'au dernier chapitre. Il y a une réémergence au dernier chapitre. Je croyais qu'elle avait bien coulé, mais non, quand même. Et là, ben, c'est un peu soufflé. Alors, avec un argument assez fort, bon, qui est l'argument de Mérieux aussi, qu'on trouve dans un certain nombre de pédagogues, confiscation techniciste, page 7, qui s'édifie sur le déni de la science qui en fait la matrice, amenant une soumission de la pédagogie à une science qui lui est extérieure, page 83, et donc vous parlez plutôt de pédagogie que de didactique. Ça, ça a été déjà soulevé par Mme Moreau quand elle parlait de d'être beaucoup plus du côté du sujet apprenant, finalement, que du côté du savoir. Mais effectivement, vous redéfinissez le savoir. Quoi. Et l'idée, finalement, que... Mais je vais vite, parce que je regarde l'heure. Dernier point, là, qui me semble intéressant. Le tous capable, vous le définissez à la fois comme un pari philosophique et comme un postulat scientifique. Tous capables comme postulat scientifique. Moi, je crois, sur ce point, je suis Mérieux, mais c'est plutôt un postulat éthique qu'un postulat scientifique. C'est quelque chose que l'on demande quelque part d'accepter, non pas, par exemple, parce que c'est un problème de fait, mais parce que c'est un idéal régulateur, un peu au sens de Kant, c'est-à-dire une idée qui est régulatrice et donc de mon action. Alors, tout ceci pose des problèmes de fond, hein. Alors, c'est le rapport entre le praticien ou le formateur et le chercheur au sens universitaire du thème. C'est le rapport entre la militance et la recherche. Bon, alors, je mets une petite pointe. Là, je mettais les inégalités sociales peuvent motiver la praxis universitaire ou militante d'un chercheur, mais l'indignation ne permet à rien d'administrer la preuve d'un savoir. Voilà, c'était pour illustrer, quoi. Et plus généralement, ça pose le problème du rapport entre un mouvement pédagogique entre la recherche et l'universitaire. Alors je me suis demandé, par exemple, pourquoi vous ne parlez jamais de recherche-action. Le concept même de recherche-action, qui est très approfondi en science, qui est, comme le dit Bataille, là où il y a les deux bords entre le praticien donc, et le chercheur au sens universitaire, disons du terme, qui sont les deux bords, disons, de la recherche-action, vous ne présentez jamais ce concept de recherche-action comme heuristique, comme pouvant éclairer, par exemple, ce que c'est que la démarche. Alors, dernier point, mais je serai très rapide, hein, j'ai 3 minutes. C'est la distinction entre l'innovation et la recherche. Est-ce que l'innovation et la recherche au sens, je précise toujours au sens universitaire, est-ce que c'est la même chose? Je crois qu'un praticien ou un formateur innovant sont des découvreurs. C'est-à-dire qu'ils expriment par leur imagination créatrice l'intelligence pratique de situations inédites. Et ça, c'est très intéressant parce que vraiment, l'originalité de vos démarches, là, c'est au top 50 des innovations. Hein. Ce praticien, ce formateur exprime par leur imagination créatrice, je disais, l'intelligence pratique des situations uniques. En ce sens, ils sont créateurs de savoir pratique. L'innovateur, c'est quelqu'un qui est créateur de savoir pratique. Mais alors, c'est là où revient, disons, ma question. Et je reprends d'ailleurs un questionnement de ma vitalité. Hein. Est-ce qu'on peut confondre savoir pratique, Vergniaud dit par exemple savoir un acte, savoir d'expérience, et savoir sur la pratique? Est-ce qu'on peut confondre savoir sur sa pratique et savoir sur la pratique? Est-ce qu'on peut, alors si j'élargis, confondre le savoir que le GFN peut avoir par sa réflexion sur sa propre démarche avec un savoir sur la démarche du GFN? Parce qu'il y a des chercheurs qui peuvent s'intéresser à la démarche et en faire leur objet aussi de la recherche en étant tout à fait extérieur, disons, à cet objet qui peut être un peu leur objet d'étude. La compréhension d'un événement s'enracine certainement dans son expérience, indubitablement, mais ne l'épuise pas. Vivre n'est pas penser sa vie. Et c'est bien pourquoi il y a nécessité d'un détour réflexif. Et d'ailleurs, ça y est bien dans ce que vous dites, puisqu'il y a la nécessité de l'analyse comme dernier temps. C'est-à-dire que cette idée que la démarche n'est pas totalement intégrée tant qu'elle n'est pas analysée et tant que les participants n'ont pas analysé eux-mêmes ce qu'ils viennent, disons, de vivre pour au moins le verbaliser, par la verbalisation, le conscientiser, peut-être arriver à une certaine formalisation. Mais peut-on confondre une formalisation, c'est-à-dire un commencement de conceptualisation d'une démarche vécue, avec une théorisation? Et alors, quelle serait la différence, finalement, entre la théorisation et une formalisation de l'expérience? C'est un problème théorique redoutable. Alors, je dirais que ce qui... qui m'intéresse dans votre thèse, c'est qu'il sait qu'il y a Peirce. Voilà. Il n'y a pas que Peirce, il y a les théories de la complexité, il y a même les derniers développements de la sémiotique sur lesquels vous appuyez dans votre, disons dans votre conclusion. Alors, l'idée de éclairage ou étayage, ça m'a bien intéressé, là, ce que vous avez dit. C'est que, est-ce que Peirce, il illustre, il éclaire, ou est-ce qu'il étaye, c'est-à-dire est-ce qu'il prouve? On travaille finalement souvent à l'intérieur d'un champ théorique, dont on admet provisoirement donc, les hypothèses, qui restent souvent d'ailleurs les hypothèses au niveau de la recherche, mais qui, dans le cadre d'une théorie donnée, dès lors que ces hypothèses sont acceptées, on travaille alors dans le cadre, disons, de ce champ, par rapport à ces hypothèses, en laissant à la recherche le fait de continuer le débat sur les hypothèses, disons, les mêmes. Alors, effectivement, est-ce que vous êtes pragmatiste jusqu'au bout, c'est-à-dire est-ce que vous utilisez Peirce? Est-ce que vous l'utilisez, Peirce, hein? Est-ce que Peirce vous semble, disons, la théorie qui éclairerait le plus votre démarche, c'est-à-dire celle qui en rendrait, disons, le plus compte? Ce faisant, vous seriez très cohérente avec elle-même, avec vous-même. Quoi. Bon. Ou alors, est-ce que Peirce, c'est vraiment le champ théorique qui vous permettrait vraiment d'établir la validité de la démarche? Quel est-il du statut de la théorie, du champ théorique de la théorie peircienne, finalement, disons, dans votre thèse? Ça serait bien intéressant. Alors, pour ma conclusion, en une phrase, hein, ce qui apparaissait au premier abord, de par une posture engagée comme un défi risqué, me semble quand même avoir été relevé, hein, ce défi, et le pari épistémologique tenu. Pourquoi précisément? Parce que, je dirais, vous avez une capacité de digérer, finalement, un certain nombre de théories qui éclairent, qui irriguent, qui donnent une hauteur de vue, finalement, disons, à la pratique, que, me semble bien qu'on se hisse et trompe trop au niveau de la recherche, mais les problèmes de fond demeurent. Voilà.
Peut-être essayer de répondre. Je vais partir. Disons, voilà, la coupure. La coupure. Vous me reprochez qu'il n'y a pas de coupure, que je ne fais pas de coupure entre un certain type de recherche et un autre type de recherche, entre la recherche-action ou la.
Coupure au sens épistémologique. Au sens de la
voilà, coupure épistémologique. Oui, mais alors moi je crois que c'est justement de ça que je suis. Moi je suis une militante de la continuité. C'est-à-dire que je ne suis pas militante du GFEL au sens où je défendrai le GFEL contre tout, ni de la démarche au sens de l'icône que ça peut représenter, ni de. Je suis militante de quelque chose qui est la continuité et qui est le refus de la coupure épistémologique que mes lectures m'ont amené à. Que mes lectures m'ont amené à situer justement. Alors là, ça rejoint un militantisme politique si on veut, mais c'est surtout une histoire historique. Enfin, Dewey en particulier dit que la coupure, la pensée dualiste, hein, c'est-à-dire qu'il dit que d'un côté il y a une chose, de l'autre il y a autre chose, et que ça remonte au partage de la société en classe à l'époque d'Aristote. Hein. Il y a, au moment de l'Aristote, il y a eu la naissance d'une pensée dualiste qui va aller avec le partage des hommes entre ceux qui avaient du loisir et ceux qui travaillaient pour les servir. Bon. Ça, c'est. Et puis j'ai retrouvé cette explication dans nombre d'autres textes. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la société d'aujourd'hui, quelle est la coupure qu'on accepte de voir entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui, par exemple, alors là où il y a un risque quand même, dans le partage théorique, entre les découvreurs qui ont l'intelligence pratique des situations inédites, etc., et les chercheurs, qui eux seraient des chercheurs qui pourraient par exemple théoriser de l'extérieur, ce qui est trop investi personnellement pour que ce soit pas un peu suspect. Donc si on a les uns qui inventent et les autres qui théorisent, là on est dans la confiscation. Et là moi c'est la chose sur laquelle j'essaie de théoriser un autre modèle, enfin de montrer où est la continuité. Il ne s'agit pas de dire, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas un métier de chercheur, parce que le métier de chercheur, il consiste à faire des choses que les autres n'ont pas le temps de faire, par exemple. Ou aussi, pour aller jusqu'au bout d'une recherche théorique, il faut en avoir envie d'aller au bout de la recherche théorique. Et tout le monde n'a pas forcément envie de consacrer un temps infini à écrire des livres, à aller dans des colloques et à lire tout ce qui s'est écrit sur le sujet qui l'a intéressé. Donc c'est une poursuite, c'est une décision, c'est un parti pris. On peut s'engager dans une vie professionnelle ou autre que professionnelle, mais dans une recherche théorique comme ça, ou ne pas y aller. Ce que je dis, c'est que ça ne valide pas, enfin, ce partage social, finalement, des tâches, ne valide pas le partage qu'on fait entre les gens qui seraient voués à des tâches manuelles et les autres qui seraient les intellectuels, ou d'autres types de coupures comme celle-là. Et moi, dans l'idée de recherche-action, je vois ce genre de coupure. C'est-à-dire, je vois un concept qui enferme quand même celui qui invente, qui innove. Il n'invente pas, il innove. Donc, je trouve que dans le terme d'innovation, il y a un peu le rapt de l'hypothèse. Puisque ce sont des gens qui découvrent des choses dans la pratique, mais où est l'hypothèse? Quel droit ont-ils à formuler quelque chose qui serait de l'ordre de la science? Pourquoi, enfin, de quel droit, au nom de quoi est-ce qu'on interdirait à un chercheur de terrain le droit de formuler des hypothèses scientifiques? Bon, il me semble que dans le travail que j'ai fait, il y a deux phases qu'on pourrait peut-être plus ou moins distinguer de cette façon-là. J'ai parlé du pôle pratique de ma recherche dans un premier temps et du pôle théorique de l'autre côté, mais je trouve des formes communes aux deux, vraiment des formes communes aux deux, et en particulier la façon dont j'ai conçu ma recherche dans un premier temps, ma recherche qui était déjà inscrite dans un collectif. La première recherche que j'ai conduite, c'était avec un collectif, on était quelques-uns, et on a produit une revue, ça s'appelait Dialangue. On a produit des démarches qui étaient des démarches absolument neuves, pas seulement innovantes, puisqu'elles produisaient des hypothèses qu'on n'avait pas au départ. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas seulement innovantes au sens où elles se seraient inscrites dans un champ repéré, déjà, dans une théorie repérée, mais elles étaient inventaient de la théorie. Et elles débusquaient des obstacles, elles débusquaient des concepts faux, enfin, comme un travail théorique peut le faire, hein, quand on fait la critique théorique très prudente et très, entre guillemets, objective du travail de quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire que là, c'était donc un travail tout autant théorique que pratique. Simplement, il s'arrêtait au niveau où on avait besoin qu'il s'arrête pour pouvoir modifier la pratique et continuer d'exercer en réussissant, d'une part, dans nos classes, et d'autre part, en pouvant apporter ça au niveau du mouvement et comme une interrogation et une interpellation à la démarche. Donc et puis il me semble que la fleur me permettait d'illustrer plutôt que de prouver quoi que ce soit, mais c'est quand même je vais laisser tomber la fleur, mais par contre ce que je voulais dire par rapport au tout ce capable, ça rejoint à cette question là tout ce capable, postulat éthique ou postulat scientifique. Bon, c'était un peu un risque que j'ai pris de dire que c'était un postulat scientifique, mais je le revendique d'autant mieux que quand on dit tous capables, personne ne sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire, je veux bien que ce soit un postulat simplement éthique, mais un postulat éthique qui nous dirigerait, c'est un peu quand même, ça c'est carrément une icône, mais une icône qui ne montre rien, parce que qu'est-ce que ça veut dire tous capables? Et à partir du moment où on ne sait pas ce que ça veut dire, il faut lui donner des significations, il faut lui construire des significations. Et c'est en ce sens que pour moi c'est un postulat scientifique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une hypothèse, mais qui a besoin d'être nourrie. C'est un parti pris, certes, mais c'est aussi une hypothèse qui est étayée quand même par un certain nombre d'observations qu'on peut faire. Par exemple, tous les hommes sont capables d'apprendre une langue. Tous les hommes apprennent au moins une langue qui est la leur. C'est-à-dire tout être humain est doué de langage, tout être humain appartient à un collectif social. Enfin, à partir du moment où il appartient à un collectif social, il développe un langage. C'est-à-dire, c'est ça, tout, enfin, pour moi, au départ, ça peut n'être que ça. C'est-à-dire, puisqu'on est capable d'apprendre une langue, on peut en apprendre une autre. Pour moi, c'est un postulat. À partir de là, on peut se demander quelle est la différence, qu'est-ce qu'on va observer, est-ce qu'on peut rester dans la même conception pour une langue maternelle ou pour une langue étrangère, etc. Pour moi, c'est un postulat scientifique en ce sens-là. C'est-à-dire, c'est un symbole. C'est un symbole, et ce n'est pas qu'une idée. C'est un symbole qui demande à être mis en circulation, reformulé, travaillé, être nourri d'expérience et nourri de théorie. Voilà. Et je pense que la question de... Peut-être que la différence entre les différents niveaux de recherche dont on a parlé, c'est peut-être... Il y a une image de Peirce qui en rend assez bien compte, je trouve, c'est l'image des pelures d'oignon. Il en parle à propos de la pensée et du langage. Il dit ce que la pensée... enfin, le lien entre la pensée et le langage, c'est l'enveloppe. Le langage est l'enveloppe de la pensée, comme l'oignon est l'enveloppe sur lui-même. C'est-à-dire que ça rejoint un peu aussi la question sur le développement. C'est-à-dire on est tout le temps dans le langage et la pensée se construit dans le. On est quand même dans une pensée de l'émergence. On ne peut pas faire autrement. On est dans le langage et on fabrique une pensée qui modifie le langage. Donc, quand même. Par rapport à l'idée d'un objet extérieur qu'on pourrait décrire avec des pincettes un peu, puisqu'on n'est pas militant, on n'est pas engagé, on est clair. Si Peirce est clair, peut-être qu'il est effectivement utilisé dans ma thèse pour éclairer plus qu'étayer, mais Peirce, sa conception de la pensée scientifique, c'est comment rendre nos idées claires. Il y a un texte qui m'a beaucoup intéressé là-dessus. Il décrit les méthodes, il oppose plusieurs méthodes de pensée et aux trois autres qui sont la méthode d'autorité, la méthode a priori et la méthode d'obstination, je crois, il oppose la méthode scientifique qui vise à rendre nos idées claires. C'est-à-dire que.
C'est l'épistémologie du 19e siècle.
Oui. Bon, je dois être du 19e siècle alors, mais je pense qu'il y a des épistémologies très anciennes qui sont pas à venir. Mais je pensais par exemple autre chose, c'est la personne. C'est-à-dire que si on veut réintégrer la personne de l'élève dans la classe, il faut aussi intégrer la personne de l'enseignant. On ne peut pas faire comme si l'enseignant n'était pas lui aussi une personne. Donc, plutôt que de faire comme si on n'était pas une personne, mettre tout sur la table et trier, c'est-à-dire mettre tout sur la table et développer une pensée critique qui s'attache à tous, y compris à ça, c'est-à-dire y compris à pourquoi je milite, sur quoi je milite, est-ce que j'ai raison de militer là-dessus. Bon, par exemple, la démarche, je la critique. La démarche, je la réinvente et je la critique. Et en même temps, je dirais que c'est à l'intérieur de ce concept que je me suis fait, de ce symbole-là, quoi. Je ne le mets pas à l'extérieur. En même temps, j'en fais une critique de l'intérieur. Si j'ai répondu, j'avais d'autres questions. D'autres choses. Non, c'est la question de. Qu'est-ce que c'était l'autre question ?
La question de l'efficacité.
De l'efficacité, oui. Alors. William James, moi je l'ai un petit peu lu et je ne l'ai plus beaucoup lu après parce que j'y ai trouvé cette représentation-là du pragmatisme, c'est-à-dire l'idée que de l'utile. L'utile est vrai. Et ça, ça ne m'a pas plu du tout, je l'ai laissé tomber. Et pour moi, William James, c'est une réduction, ce que j'en ai lu, je n'ai pas lu beaucoup, ce que j'en ai lu, c'est une réduction dualiste de la pensée persienne. Et ce que je trouve de fort intéressant dans la pensée persienne, c'est que justement, il ne dit pas ça. Il ne dit pas que c'est pas parce que la démarche est efficace qu'elle est vraie, ni que le discours qu'on tient sur la démarche et la théorie qu'on en a est vrai. Puisque justement, j'ai écrit cette thèse pour interroger la théorie que nous avons de la démarche et essayer de faire évoluer et la démarche et la théorie de la démarche pour qu'on ne s'enferme pas justement dans quelque chose qui, parce qu'il marche, ça marche et alors on croit qu'on sait comment ça marche. Et donc on peut reproduire comme ça, comme si ça marchait tout seul. Mais non, c'est pas du tout ce que j'ai écrit, c'est pas du tout ce que je pense du rapport à l'efficacité. Le pragmatisme, il dit pas ça. Il dit une idée qu'on croit vraie abstraitement, on n'a aucune garantie de vérité. C'est-à-dire, c'est cette idée aussi que plus c'est intime, Bruno Latour dit, plus une vérité est connectée, plus une science est connectée, plus elle est vraie, plus elle a de chances d'être vraie. C'est-à-dire qu'il y a une autre conception qui pense que plus elle est déconnectée, plus elle est vraie. Lui dit plus elle est connectée, plus elle a de chances d'être vraie. Et je crois que c'est juste, parce que c'est l'important, c'est d'être connectée, puisque la réalité, c'est ça. Et de faire une critique du type de connexion, d'en être conscient, de les nommer. Et dans un travail théorique, de les mettre en relation avec d'autres contextes. Je crois que c'est ça le travail de la théorie, c'est la décontextualisation. Mais que là aussi, je vois autrement qu'on ne la voit bien souvent, en particulier au GFN d'ailleurs, l'idée qu'un savoir, pour être vrai, doit être décontextualisé. Je pense qu'il faut qu'il soit décontextualisé, certes, du contexte où il est né, mais ça veut dire qu'il se recontextualise dans un contexte plus important, plus vaste. Hein, et on ne jamais à savoir décontextualiser totalement. Il est de plus en plus efficace, de plus en plus, il a de plus en plus de connexions, donc il est de plus en plus. C'est pas efficace, donc il a de plus en plus d'effets possibles. Il a de plus en plus d'effets de transformation du réel. Et c'est ça qui nous intéresse. Et quand même, la position du militant, c'est aussi un sentiment d'urgence par rapport à des injustices, à ne pas soi-même fabriquer les injustices qu'on déplore. C'est-à-dire qu'on est enseignant, on déplore sur le plan politique un certain nombre de choses, les fabriquer dans sa classe en n'étant pas conscient de ce qu'on fait, c'est une position insupportable.
Merci.
bien. Donc, il ne me reste plus qu'à me donner la parole. Voilà, alors je crains, après ces envolées théoriques, de vous faire atterrir sur des choses beaucoup plus concrètes et modestes. Bien, j'interviens ici, chacun se demande à quel titre il est là, donc je vais sacrifier au rituel pour dire que, bon, moi je suis absolument béotien en ce qui concerne la synodique persienne, que j'ai toujours tout à fait redouté, d'autant plus que les échos que j'en ai eus en dehors de l'IRC, dans ma propre discipline, ont toujours été particulièrement rébarbatifs, et je dirais parce qu'ils étaient instrumentalistes et réifiants. Et je remercie Joël Cordès de m'avoir donné l'occasion d'approcher Peirce. Cela étant, je me demande, après avoir entendu Mme Moreau s'exprimer donc au sujet de l'exploitation qui en avait été faite, si finalement, mais c'est peut-être aussi la loi du genre, si finalement donc la sémiotique persienne n'était pas une sorte d'ouvre-boîte, pourquoi pas universelle, et que chacun utiliserait un peu à sa façon. Bon, la question est en suspens. En tout cas, ce que j'en ai lu à travers ces deux thèses me semble tout à fait sympathique, innovant et ouvert, et donc est susceptible de me donner l'envie d'en poursuivre la lecture. Merci donc pour cela. Alors, pourquoi est-ce que je suis là? Eh bien, parce que je suis depuis de nombreuses années, hélas, enseignant de langue, et donc je suis moi-même confronté à la réussite et à l'échec de mes élèves et de mes étudiants. Et je suis aussi là parce que depuis très peu d'années, je suis directeur du Centre de langue de l'Université de Perpignan, et que je dois, dans l'actualité, être amené à gérer l'échec généralisé de nos étudiants en langue, en particulier l'échec des étudiants non spécialistes. Je pense en particulier, étant donné que nous sommes une université pluridisciplinaire, aux étudiants en sciences pour qui l'anglais, la connaissance de l'anglais est vitale, et qui sont pour la plupart dans l'échec, de même que les juristes en particulier. Donc il me semble que la méthode, pour ne pas dire la démarche, donc que nous propose Joël Cordès dans sa thèse, est un instrument qui est, d'un point de vue pratique, la possibilité peut-être de faire retour sur des apprentissages qui ont été faits dans le cadre d'une institution scolaire dont Joël Cordès nous montre très précisément qu'elle marche à l'envers. La possibilité peut-être de remettre des apprenants qui ont été dévoyés sur la voie l'appropriation de cette langue. Non pas uniquement une appropriation en termes utilitaires, dont ils ont certes besoin, mais aussi une appropriation par rapport à eux-mêmes. Voilà donc quelle est mon entrée, disons, dans le sujet. Le deuxième point que je voudrais évoquer est que, on l'aura constaté, il s'agit bien d'une thèse. Alors évidemment, j'ai l'air d'enfoncer les portes ouvertes et je fais de la provocation, mais impétrante, provocatrice, membre du jury provocateur. Il s'agit d'une thèse parce que c'est une démonstration, que pour ma part je trouve rigoureuse, même si elle pose un certain nombre de problèmes qui ont été évoqués, mais une démonstration qui effectivement est celle d'un point de vue qui est discutable, donc qui est soumis à discussion, et je pense que ce que nous avons pu en voir jusqu'à maintenant, ou du moins l'entendre jusqu'à maintenant, le prouve à satiété. Pour moi, cette thèse donc est rigoureuse, elle est militante et elle est stimulante. Alors si elle est rigoureuse, eh bien je pense que c'est parce qu'elle présente une structuration qui, comme cela a été dit, est une structuration un peu particulière, c'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à une thèse canonique qui pose ses présupposés et qui ensuite les éclaire.
mais qui, comme cela a été dit, fonctionne de manière beaucoup plus complexe et beaucoup plus exigeante pour le lecteur. Je souscris aussi à ce qui a été dit, hein, que c'est une thèse extrêmement dense et qu'on ne peut lire, me semble-t-il, que de façon suivie, hein, effectivement. Parce que, donc, elle est rigoureuse parce qu'elle fait appel, hein, à une méthodologie, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours en toile de fond, hein, l'éclairage, puisqu'on en est venu là, de la sémiotique partielle, qui elle-même, donc, hein, est complexe et exigeante, et parce que, au-delà de la lecture, à mon avis, approfondie et autorisée de Peirce, elle suppose donc une accumulation de lectures, d'ouvrages théoriques qui sont des ouvrages de fond et dont on peut s'apercevoir qu'ils ont été bien assimilés dans le cours, disons, de la démonstration. Alors, à ce sujet, je ferai peut-être une petite objection qui est le revers de la médaille, à savoir que, bon, d'un point de vue formel, hein, moi, dans mon édition, enfin, du moins dans l'exemplaire que j'ai trouvé des notes de bas de page qui n'étaient pas toujours très complètes. Certaines étaient un peu en suspens. C'est le père Fouettard qui parle. Et puis que, donc, il y a à la clé donc, de cette démonstration, de cette une accumulation de références, une manière d'opérer. Qui est parfois allusive, parfois donc du domaine de l'implicite, dans la mesure où ce sont des savoirs que tu as accumulés et où le lecteur est censé plus ou moins avoir les mêmes repères. Or, bon, dans le cadre de la thèse canonique, bon, on aime bien être abreuvé de notes de bas de page pour pouvoir se référer, hein, à ce qui n'est pas toujours les citations, mais en tout cas qu'on aimerait pouvoir retrouver dans les ouvrages référencés. Donc, je l'ai dit, pour moi, à ces réserves près, hein, qui sont quand même mineures, hein, donc c'est une thèse rigoureuse. C'est une thèse également militante, on l'a suffisamment dit, dans la mesure où elle s'appuie, hein, sur une expérience pédagogique qui est longue, variée, hein, menée à la fois au sein de l'institution scolaire et en dehors, donc dans le cadre du GFEN. Donc il y a une expérience pédagogique institutionnelle et une expérience militante, donc, hein, qui est active, qui est innovante, et on le voit bien, un transfert qui a été opéré, hein, du secteur militant vers le secteur institutionnel, sans doute de façon problématique. La rencontre, hein, de la rigueur, hein, scientifique et de la volonté affichée, hein, militante, de cette rencontre-là, il en résulte une écriture absolument stimulante. Parce que nous sommes sans arrêt dans un aller-retour qui est un pari, me semble-t-il, réussi à la lecture, à la fin de la lecture, peut-être dangereux comme cela a été signalé du point de vue strictement épistémologique, mais en tout cas du point de vue, hein, de la consommation, si je peux dire, hein, si je peux oser la formule, de la lecture donc de l'ouvrage. Un pari réussi, donc, d'aller-retour incessant entre la réflexion théorique et l'étude de cas, et même l'anecdote vécue. On ne théorise de façon convaincante que dans la mesure où l'on est capable d'apporter les preuves tangibles à partir d'un faire, hein, donc vécu et retransmis, de l'efficacité de la mise en application de la théorie. Donc je dirais que cette thèse donc est stimulante par sa densité, hein, qui requiert une lecture attentive, et parce que donc la rigueur ne masque jamais, hein, la capacité de conviction. D'une certaine façon, on pourrait dire, en y ajoutant une écriture tout à fait claire, limpide, c'est-à-dire une capacité, une compétence pédagogique à toute épreuve, c'est-à-dire que même lorsque on est en train de jargonner dans le cadre de la sémiotique persienne, immédiatement surgit la phrase salvatrice ou les phrases salvatrices pour le non-initié. Et je salue cela non seulement à titre de lecteur béotien, mais aussi du point de vue éthique, à savoir que Joël Cordès nous apporte la preuve manifeste que même si l'on est capable de se colleter, disons, à des théories complexes, on est capable aussi d'en faire la divulgation parce qu'on ne veut pas rester dans sa tour d'ivoire. Et ceci, évidemment, je le replace dans le cadre des fonctionnements universitaires qui parfois atteignent ce degré de perversion. Donc je salue cette volonté de clarification, cette volonté divulgatrice. Et pour moi, celui qui est capable de divulguer clairement des objets de connaissances complexes, n'en démérite pas, bien au contraire. Alors, d'une certaine façon, et j'en terminerai avec ma première partie d'intervention, on pourrait dire que ce soit la thèse, que ce soit la soutenance à laquelle nous sommes en train d'assister, est peut-être une sorte de démarche. Autrement dit, si je ne me trompe, que nous, les uns et les autres, nous faisons ici de l'auto-socio-construction. Autrement dit, Joëlle Cordès nous a bien piégés, puisqu'elle nous a mouillés les uns et les autres, à la fois dans la lecture attentive que nous avons dû faire de sa thèse, aussi bien donc dans cette lecture-là que dans les exposés des divers points de vue que sa thèse a suscité aujourd'hui. Autrement dit, chacun, ici même, est en train, est en réflexion, en recherche, puisque je souscris tout à fait à son opinion selon laquelle nous devons tous être chercheurs. Alors, sommes-nous tous capables? Oui, certes, mais je crois avant tout, nous sommes tous chercheurs. Et de ce point de vue-là, les reproches qui sont adressés, qui sont virulents, ils sont adressés à l'institution scolaire, me semble tout à fait pertinent. Effectivement, Joël Cordès pose à un certain moment la question de savoir si nous sommes tous capables de produire. Et la question, quand on a un certain nombre d'années de pratique derrière soi, elle se pose. Effectivement, que demandons-nous en tant qu'enseignants à nos élèves? Leur demandons-nous de faire les perroquets, d'une certaine façon, ou leur demandons-nous d'être producteurs, d'être réflexifs? Je crois que, malheureusement, une des sources de l'échec de l'institution, que ce soit en matière d'enseignement des langues ou autre, c'est précisément le fait que les apprenants, pour les mettre sous une étiquette générique, sont uniquement des gens sommés de reproduire et de ne pas penser par eux-mêmes. Alors, la question rebondit sous la plume de Joël Cordès pour savoir si, effectivement, pourquoi les apprenants en sont réduits à cela. Et on voit tout de suite pourquoi. Si les apprenants en sont réduits à cela, c'est parce que leurs enseignants pratiquent cet art pervers qui est uniquement de se pencher lorsqu'on a à enseigner quelque chose sur le livre du maître, d'essayer de reproduire les consignes pour qu'elles soient reproduites, elles soient appliquées et reproduites par les apprenants. Donc cette thèse me semble donc particulièrement interpellante sur les pratiques que nous avons, que nous pouvons avoir les uns et les autres, et sur, malgré notre désir, enfin du moins pour certains, d'échapper justement à cette loi de la reproduction, qui a si bien été décrite par Bourdieu, comment en sortir Comment en sortir? Et je pense que les propositions qui sont faites sont particulièrement stimulantes et particulièrement ouvertes. Je voudrais vous citer une des nombreuses définitions que Joël Cordès donne du fait d'apprendre. C'est à la page 75, et je cite « Apprendre, c'est se battre avec soi-même, et les meilleurs alliés de notre dynamique personnelle sont les autres, avec ce qu'ils partagent avec nous de représentation collective et ce qu'ils ont de singulier qui peut faire choc avec notre propre univers. » Je trouve que parmi les différentes formulations que l'on rencontre sous la plume donc de l'auteur de la thèse, il y a évidemment fort à méditer là-dedans. Effectivement, la question, c'est pour l'apprenant et pour l'enseignant lui-même de se retrouver face à soi-même. De se retrouver face à soi-même avec, dit-elle, le concours du groupe, avec le concours de la communauté, comme il a été dit tout à l'heure, qui se construit. Communauté d'un groupe, communauté d'apprenants, mais groupe, communauté formé par les apprenants et l'enseignant. Et ce qu'elle montre très très bien dans sa thèse, c'est précisément, et on le retrouve dans cette citation à travers l'expression « faire choc », c'est justement la remise en cause de ce que, avec le jargon persien, on dénomme donc la croyance. Nous sommes effectivement des tissus d'habitude. Nous avons inculqué en nous des présupposés qui, effectivement, font écran aux apprentissages, et dont il importe qu'il soit confronté à d'autres, à l'autre, à l'altérité, c'est-à-dire à la différence ou à la divergence, comme on voudra. Une autre formule que je voudrais vous donner à méditer est la suivante, au sujet de la pédagogie des langues. C'est dans, aux pages 395-396, la pédagogie des langues, est-il dit, est une science stratégique dont l'objectif est le développement de stratégies de croissance du langage à travers l'acquisition de nouvelles habitudes dont le paradigme est l'étrangeté. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est au contact du différent que se produit en quelque sorte la réaction du retour vers soi-même, du retour sur soi-même. Il me semble que la thèse de Joël Cordès répond de manière, me semble-t-il, à la fois détournée et magistrale à la question qui se pose aussi bien dans le domaine de l'éducation que dans le domaine de la citoyenneté, à savoir donc la question de l'identité. Elle la traite en filigrane, mais elle y répond donc parce que l'identité, dit-elle, c'est d'abord un problème de retour sur soi à travers l'autre, l'autre n'étant pas l'adversaire, l'autre est permettant à travers son appréhension par le biais du langage, qui est la troisième polarité, d'échapper à cette confrontation violente avec l'autre, d'échapper donc à l'attraction-répulsion. Je suis particulièrement séduit par les pratiques qui en sont exposées et par cette formule qui est, à travers le jeu de rôle, à travers la caricature, lorsque l'on endosse l'identité de l'étranger, de montrer que, précisément, ce retour sur soi peut se faire et est extrêmement favorisé par, je cite, « le masque de la langue étrangère ». C'est à la page 487 que c'est écrit. Donc, dans la mesure où on devient un autre à travers donc l'appropriation que l'on fait de la langue étrangère, on fait donc retour sur soi et on en vient à questionner sa propre langue, ses propres pratiques. Alors sur un autre domaine qui m'a particulièrement intéressé, c'est le rapport au sein de l'enseignement, le rapport à la loi et le rapport à l'erreur. Bon, bien sûr, Joël n'innove pas particulièrement dans ce domaine-là, mais elle a le mérite de l'exposer de manière claire, peut-être même frontale. Et je crois que c'est là une des clés, justement, de la progression que peuvent effectuer les apprenants, c'est-à-dire la dédramatisation de l'erreur, le fait que de considérer que l'erreur est une des composantes intégralement de la démarche d'apprentissage. De ce point de vue-là, donc elle incite par le fait qu'on entre dans la langue à se confronter justement aux difficultés et donc à accepter la marge d'erreur, à accepter l'écart. Je cite l'écart comme partie intégrante de la vie des signes. Et d'autre part, dit-elle, la négociation comme conviction de la convention et de la loi. À cet égard, tout ce qui est écrit concernant la grammaire me semble tout à fait intéressant. Le fait d'asséner effectivement des règles, des lois grammaticales aux étudiants et aux élèves fait bien sûr de la grammaire une science particulièrement saumâtre, répulsive. Mais Joël Cordès nous montre, par exemple à l'appui, que, je cite, « la grammaire est une science et donc un lieu de controverse ». Et l'éclairage qui permet de passer de la grammaire comme une loi des reins à la grammaire comme un lieu de controverse est précisément, et elle l'a déjà dit, mais je voudrais le souligner, le fait de passer non pas par la langue, c'est-à-dire ce que depuis Saussure on voit comme immuable, figé, mais par le discours, c'est-à-dire par la mise en œuvre que nous faisons tous de cette langue à un moment donné, et donc qui est susceptible de varier. Alors j'ai été un peu surpris tout de même lorsque l'on parle de cet apprentissage par l'erreur, l'écart, par la négociation, de ne pas trouver, formuler le concept d'interlangue. Je me demande. Non, pas beaucoup. Je me demande pourquoi, enfin, si c'est passé à la trappe délibérément, ou si. Il y a. Ou si c'est uniquement parce que tu te sers d'autres termes. La relativité, comme il est dit, du savoir grammatical, me paraît être donc une dimension fondamentale. Dernier point sur lequel je voudrais insister, et qui, en tant que sociolinguiste d'une part, en tant qu'enseignant de langue très minoritaire, puisqu'en dehors de l'espagnol, j'enseigne aussi l'occitan à l'université de Perpignan, moi j'essaie de le faire. Je suis très extrêmement sensible au positionnement politique, pourquoi ne pas le dire, qui est pris par Joël Cordès dans son travail, à savoir une mise en cause, non seulement, comme on l'a dit, de l'institution scolaire dans ses pratiques, dans ses méthodes et dans ses présupposés, mais également de la République. Je parle ici de l'école française, dans la mesure où cette école, cette république, donc, est celle qui a créé, qui assure la promotion de l'institution scolaire, laquelle institution scolaire est monolingue et demande, monolingue et je dirais même unilinguiste, c'est-à-dire la différence étant que monolingue, elle s'exprime dans une seule langue, unilinguiste étant, au-delà, hein, le fait que il y a de sa part une exigence d'unicité, hein, et d'exclusivité de la langue, voire l'article 2 modifié depuis pas tellement longtemps de la Constitution. Cette république, cette institution scolaire qui sont monolingues, voire unilingues, demande, hein, aux enseignants et demande aux apprenants de devenir plurilingues. Comment, on parlait tout à l'heure de coupure, hein, bon, je pense que là, il y a une coupure qui ne peut se suturer, hein, qu'à travers des pratiques innovantes, à travers des pratiques divergentes. Je suis évidemment tout à fait satisfait, hein, de voir que est prise en compte, à travers le souci de la promotion de l'égalité en droit, hein, des langues, de l'égalité en droit à l'apprentissage des langues, donc la relation dominant-dominé que souvent on masque. Hein. L'institution ignore les autres langues, bien sûr, et ignore, au fin d'ignorer, hein, le fait que les langues sont plus ou moins chargées de pouvoir, ou plus ou moins minorisées. Donc, le projet qui est celui défendu par Joël Cordès de plurilinguisme à l'échelle universelle, hein, qui inclut les langues d'origine, qui inclut ces langues d'origine, qu'elles soient des langues régionales, qu'elles soient des langues étrangères, des langues d'immigration, hein, me semble être d'une actualité brûlante. Autrement dit, hein, nous sommes bien sûr en train d'analyser une thèse, mais nous sommes en train nous avons affaire à un travail, hein, qui est d'utilité sociale, qui n'est pas uniquement d'utilité universitaire, d'utilité spéculative. C'est dans ce sens, hein, que je pense que donc cette thèse doit avoir la reconnaissance qu'elle mérite, c'est-à-dire que au-delà, hein, des éléments que l'on pourrait lui reprocher d'un point de vue strictement universitaire et qui sont parfaitement recevables au demeurant, il faut lui voir une autre vertu, hein, qui est celle d'essayer de faire bouger l'institution, d'essayer de faire bouger les consciences et de faire cheminer à la fois les enseignants et les apprenants. Voilà. Bien, donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire.
Oui, peut-être pour conclure. Ça veut d'abord rappeler que j'ai pris des risques dans ma thèse, mais je passe mon temps à dire à mes élèves en classe que le risque est une composante essentielle de la pensée, de son développement, donc ce serait peu conforme à mes convictions de ne pas avoir pris quelques risques dans ma thèse. Je voudrais insister sur le fait que je pense qu'une des étapes qui permettent de devenir chercheur pour de bon, c'est-à-dire pas seulement chercheur potentiel ou ayant déjà des comportements de recherche parce qu'on avance dans son langage, parce qu'on se développe, passer à un autre niveau de conscience de nos capacités de recherche, c'est l'écriture. Et c'est la chose sur laquelle c'est aussi une des bagarres qu'il faut mener dans la société, c'est le fait d'autoriser, de faire que les gens s'autorisent à écrire. Et je voulais dire que pour ma thèse, l'écriture a été véritablement une forme de pensée. Je crois que Christian l'a souligné de façon assez claire, mais c'est un peu la résolution de la rencontre des deux univers, c'est faite dans le travail d'écriture, qui est véritablement, en particulier, passer d'une écriture qui était plus affective, quand je manquais d'arguments, à une époque où j'écrivais dans dialogue, beaucoup d'articles qui étaient encore très marqués de modalités, justement indignées, des choses comme ça.